Bonjour, chers écouteurs.
Les végétarismes.
Mais comment ça, tu veux plus être végétarien?
J'en ai marre de manger toujours la même chose. Salade verte, céleri, céleri, salade verte.
Il y a le steak de tofu.
Et l'escalope de soja.
Non mais en plus, personne m'a demandé si je voulais être végétarien.
Ben oui, il s'agit de la liberté des hommes, on peut manger ce qu'on veut, non? Il s'agit aussi du droit des animaux. La majorité à l'Assemblée nationale vient de réussir à modifier le code civil aux animaux et reconnu une sensibilité. Faut-il aller plus loin? Ou bien le Conseil constitutionnel mettra-t-il le holà? Il s'agit aussi de l'éducation des enfants. La cantine scolaire est devenue une vaste chambre d'écho de nos débats d'adultes. Y faut-il un jour sans viande? Dans ce tohu-bohu, j'allais dire tofu-bohu, l'histoire peut-elle faire entendre une voix? Elle a longtemps enseigné que la chasse comme l'élevage avait favorisé la coopération de l'espèce humaine. Et concernant un passé moins lointain, elle a insisté sur les attitudes différentes induites par le catholicisme et par le protestantisme. Les siècles ont aussi construit une singularité française, le repas gastronomique partagé que l'UNESCO a inscrit au patrimoine de l'humanité. Or, le fait d'être omnivore facilite la commensalité. La multiplication des alimentations particulières ne risque-t-elle pas de la briser? Mangerons-nous encore ensemble demain?
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Claude Fischler, bonjour.
Bonjour.
À qui rien des pratiques alimentaires, pas seulement en France, pas seulement en Europe, dans le vaste monde, n'est étranger. Vous avez publié d'innombrables livres chez Odile Jacob, notamment un sur les alimentations particulières. Il ne faut pas attendre quand même de vous qu'un jour vous écriviez une histoire du végétarisme, qui reste à venir.
Elle reste à venir. Je ne pense pas que je contribuerai à remplir ce relatif vide, parce qu'il y a quand même pas mal de travaux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, à ma connaissance, un livre définitif.
Il y a un livre au PUF qui vient de paraître extrêmement militant. Vous allez donner l'envie de se mettre à cet ouvrage, très certainement. Je ne vous demande pas, vous non plus, si vous êtes végétarien. Vous m'expliquiez quand même que, dans votre enfance ou votre adolescence, on est là face au quai de Grenelle, on le voit depuis la fenêtre de nos studios, vous pêchiez le poisson.
Le gardon, oui, sur l'île aux Cygnes, oui, oui.
Et vous le consommiez?
Non, on le donnait au boucher qui disait le consommer, mais qui très probablement
Le
boucher en bas de chez nous, qui probablement faisait don à ses chats.
D'accord. Alors, on va remonter le courant. On va commencer par l'Antiquité, les bêtes nous secondaient dans les travaux et les jours, elle nous permettait d'avoir des vêtements et de la nourriture. Le lion tuait la gazelle, on lit ça dans les récits d'Hérodote. Néanmoins, les végétariens cherchent des aïeux chez quelques théoriciens d'exception dans l'Antiquité.
Il y a Pythagore, il y a la secte pythagoricienne qui...
Attendez, ne parlez pas tout de suite de secte.
Si, si, non mais secte au sens technique, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a un groupe qu'on appelle les pythagoriciens, sur lesquels, en fait, sur Pythagore lui-même, je crois qu'on ne sait pas grand-chose de solide. Mais enfin, il y a des travaux d'antiquistes très très réputés sur ces fameux pythagoriciens, qui représente quelque chose de tout à fait fondamental et pour le chercheur, d'un très important pour comprendre justement toutes les implications de ce phénomène qui est l'abstention de consommation de viande. Les pythagoriciens refusent de consommer de la viande. Or, la viande, et la viande d'animaux domestiques en particulier, occupe une place extrêmement importante dans la cité grecque, puis plus tard à Rome. Elle n'est consommée qu'à l'issue d'un sacrifice religieux. On a un prêtre boucher qui abat l'animal, le sacrifie, et cet animal est ensuite partagé dans un repas public, qu'on appelle quelquefois un festin ou un banquet, mais qui peut revêtir un caractère beaucoup moins festif ou solennel. Et ce repas est partagé exclusivement par les citoyens, à part entière de la cité. Ce qui fait dire à Détienne et Vernon, les grands historiens, et à d'autres antiquistes, que ce végétarisme des pythagoriciens a un contenu politique extrêmement important, c'est-à-dire qu'on refuse l'ordre de la cité si on refuse de participer. D'ailleurs, il faut voir l'étymologie dans ce domaine, surtout quand on arrive à Rome. Rome reprend le système du banquet sacrificiel, et un autre grand historien, John Scheid, du Collège de France, nous explique que le vocabulaire politique que nous avons encore aujourd'hui prend sa source en grande partie dans l'institution du banquet sacrificiel romain.
À moins qu'on ne fasse, c'est une trouvaille d'un roi pythagoricien de légende, à la place du bœuf du sacrifice, un bœuf de pain d'épices. Comme ça, les hiérarchies de la cité sont conservées et en même temps, on ne consomme pas de viande. Alors ça, c'est une exception de l'Antiquité. Je voudrais que vous nous parliez aussi d'une autre exception, ce sont les renonçants. Il y a près de 1500 ans, il était une fois au Mont Cassin, un grand saint qui a été proclamé par l'Église patron de l'Europe, qui s'appelle Saint Benoît, et qui a rédigé pour la vie de tous les jours une règle minutieuse.
Et la raison pour laquelle Saint Benoît prévoit deux mets cuits, c'est, dit-il, en sorte que celui qui ne pourra manger d'un mets puisse faire son repas avec l'autre. Ainsi donc, deux mets cuits devront suffire aux frères si l'on a des fruits ou des légumes tendres, que nous pouvons traduire souvent par salade, ou bien par des tomates, enfin, vous voyez, des choses qui s'apprêtent facilement, excellentes pour des moines qui, malgré tout, même ceux qui travaillent manuellement, mènent tout de même une vie assez sédentaire. À la fin de ce chapitre de la mesure du manger, saint Benoît nous déclare « tous absolument s'abstiendront de la chair des quadrupèdes ». Excepté ceux qui sont tout à fait débiles ou qui sont malades. Alors, ça a donné naturellement objet à des interprétations. Les moines les plus austères ont prétendu qu'il ne fallait rien manger qui ressemble à de la viande de près ou de loin. D'autres, qui sont tout de même des bons moines, ont fait remarquer que la volaille, par exemple, les poules, n'avaient pas quatre pattes, que ce n'étaient donc pas des quadrupèdes et que par conséquent, les moines pouvaient en manger. Et de fait, nous savons qu'à Cluny, par exemple, de temps en temps, on servait du poulet aux moines.
Don Jacques Dubois, France Culture 1989, c'est pas par souci des bêtes qu'on renonce, c'est parce que la viande chaude, vous voyez, ça excite la libido, tandis que le gardon froid, moins.
C'est une constante, ça, c'est le mécanisme anthropologique bien connu, qui est l'idée d'incorporation, c'est-à-dire qu'il y a un rapport analogique entre ce que l'on mange, ce que le mangeur mange, et l'identité même du mangeur. C'est-à-dire que si je mange du chaud, ça va me réchauffer, etc. Je suis ce que je mange, je deviens ce que je mange, et en effet, la chair est réputée échauffer les sens, les mœurs et le reste. Et le poisson est de l'ordre du froid, et évidemment tout ça renvoie aussi à la théorie médicale hippocratique qui traverse l'Occident pendant jusqu'au 19e siècle.
Oui, mais ce que vous dites de l'incorporation, Claude Fischler, me pousse à vous poser des questions sur les théories eucharistiques, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs dans le protestantisme et le catholicisme, pas exactement les mêmes. Si aujourd'hui, il y a 4 fois plus de végétariens en Allemagne ou en Grande-Bretagne qu'en France, il faut peut-être en chercher la raison dans l'histoire religieuse, celle du protestantisme.
Oui, d'ailleurs, il y en a probablement plus que 4 fois plus déclarés, parce que ce qui est au cœur de tout ça, c'est justement cette affaire de commensalité. C'est-à-dire que nous avons une conception dans les pays de tradition. Là, on devient weberien au sens du grand sociologue allemand Max Weber, n'est-ce pas, qui attribuait notamment au protestantisme les origines du capitalisme, etc. C'est-à-dire qu'il y a, pour faire de la théologie sauvage, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a une façon protestante dans laquelle un individu rend compte seul de sa conduite et de sa morale au Créateur, sans intercession, sans l'appareil de l'Église catholique romaine, sans la hiérarchie, sans la possibilité d'avoir des indulgences, la confession, etc. Et donc, ces deux positions-là entraînent un rapport à l'alimentation qui est facilement très très différent. C'est-à-dire que quand nous étudions des pays de tradition catholique, nous voyons que le repas, et en particulier en France, est une institution, un rituel de type communiel. c'est la communion, c'est-à-dire qu'en effet, c'est l'Eucharistie, c'est ceci est ma chair, ceci est mon sang, et il devient dès lors extrêmement difficile de s'abstraire de ce repas, n'est-ce pas ? Et quand on est dans une logique protestante, on voit que aux États-Unis, en Angleterre, le repas, c'est une affaire qui relève d'un contrat. C'est contractuel, c'est-à-dire j'arrive, on va passer un moment ensemble, autant que les choses se passent le mieux possible, il y a deux volontés, moi je mange ceci, toi tu manges cela, on est libre, on peut manger ce qu'on veut, disiez-vous au début de l'émission, ce qui est clair c'est qu'on ne peut pas forcément manger ce qu'on veut avec n'importe qui.
Mais quand on mange du cornflakes, et qu'on voit la figure de M. Kellogg, alors c'est quelqu'un qui passe un contrat avec nous, le protestantisme, il en est devenu de l'hygiénisme, je vous mets un truc bien emballé, normalisé, il n'y a aucune méfiance à voir, les sens ne vont pas être tellement en éveil, le mal ne rôde pas, vous ne serez pas malade.
Ben, c'est le protestantisme ou les obédiences protestantes multiples et variées commencent à apparaître en relation avec le végétarisme au XVIIe siècle avec un nommé Jacob Boehm qui est un cordonnier établi en Angleterre et qui prône une doctrine où le végétarisme est central. Ensuite, il y a différentes... Enfin, tout ça a été très très bien étudié par un de mes collègues de l'INRA qui s'appelle Haruna Ouedraogo. C'est un petit peu un labyrinthe d'églises et d'obédiences diverses. Ce qu'on voit, c'est se répandre en Angleterre du XVIIe au XIXe siècle dans cet hygiénisme. Il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension morale et il y a une dimension hygiénique qui sont très très entrelacés et qui se transmettent ensuite aux États-Unis dans le courant du 19e siècle. Tout ça, c'est vrai, c'est quelque chose de très, historiquement, très anglo-saxon.
Alors justement, si on revient à l'Europe, on pourrait d'ailleurs interpréter les débats qui traversent l'Union européenne sur les questions de réglementation alimentaire à cette lumière. La réglementation européenne, on est quand même content de l'avoir, l'espace disponible pour les poulets d'élevage. La réglementation des transports d'animaux qui est intervenue quand même depuis ce reportage très ancien de TF1 de 92.
La route de la misère et de la douleur. Chaque jour, des dizaines de milliers d'animaux l'empruntent. Elle est synonyme pour eux de souffrance et de sévices. Des porcs entassés dans un camion depuis 60 heures sans eau ni nourriture entre la Sicile et les Pays-Bas. Autre exemple, nous sommes ici en Allemagne, ces chevaux arrivent de Pologne, ils sont destinés au marché français et déjà, à mi-chemin, ils sont marqués et très gravement blessés. Battus, déchargés avec violence, les animaux sont très souvent blessés et quelquefois, ils meurent des suites de ces blessures. La législation européenne ordonne aussi que les animaux soient assommés avant d'être tués. Ces images, prises en banlieue parisienne et en Espagne, sont la négation parfaite de la loi. Agneaux et moutons sont pendus vivants par une patte avant d'être égorgés à la chaîne. Gain de temps, gain d'argent. Quelquefois, le supplice est encore plus long, comme ici au Royaume-Uni. On assomme ce veau pour éviter de le faire souffrir au moment de le tuer, mais le travail est terriblement mal fait et la souffrance est double.
L'abattage industriel existe depuis 1865, au moins les abattoirs de Chicago. Vous remarquez, Claude Fischler, que à la question « Mangez-vous de la viande ?», 98% des Français jusqu'ici vont répondre oui. À la question « Approuvez-vous les méthodes de l'abattage industriel ?», 98% des Français vont répondre non.
Et oui, et ces abattoirs de Chicago ont, dit-on, servi de modèle à Henry Ford pour mettre au point son système de production industrielle. Et je pense que c'est ça qui est au cœur du problème contemporain, du rapport contemporain à la consommation de viande ou au bien-être animal. C'est la question de la mort de l'animal, mais le sens de la mort de l'animal. Si nous parlions de l'Antiquité tout à l'heure, le sacrifice qui donnait lieu au banquet sacrificiel, c'est ça le sens de la mort de l'animal. On donne un sens à la mort de l'animal qui est sacrificiel et qui cristallise, sanctionne, ritualise l'ordre politique de la cité. Hein. À Rome, je commençais à vous dire tout à l'heure, prince, ça vient de princeps, primus capere, c'est le premier servi. Hein. Et la part de chacun, à raison de s'en rendre à la cité, ça s'appelle meritum. Le mérite, etc. Alors, ce sens à la fois politique et moral ou religieux de la mort de l'animal, où est-il ? dans l'abattage industriel. C'est ça qui est en jeu. C'est une masse indifférenciée qui va passer à l'abattoir. Et on voit que dans certains groupements militants de défense des animaux contemporains, et de même que dans les entretiens qu'on peut avoir avec des mangeurs, l'aspect indifférencié, massifié, etc., de l'abattage des animaux contemporains, en particulier des bovins, renvoie, de façon assez choquante d'ailleurs, à la Shoah et à l'industrialisation, à l'abattage quasi, même pas quasi, industriel de, des humains par, par les nazis.
Dans l'Ukraine, occupée par les Roumains alliés des nazis, les porcheries industrielles servaient pour le logement des Juifs. On pourrait dire de manière un peu provocante que l'enseignement de la Shoah ne nous protège pas de l'antisémitisme, mais a permis le développement du végétarisme. Je vous cite Paul McCartney maintenant, si vous le voulez bien. Encore un grand auteur. « Si les abattoirs avaient des fenêtres, on ne mangerait plus de viande. » Lisa Simpson, vous savez, la sœur cadette des fameux Simpson, vos vieux amis, avait rendu visite à McCartney et à son épouse Linda dans les années 1990.
« Waouh, Paul McCartney, j'ai lu des trucs sur vous en cours d'histoire. Mais où est votre femme Linda ?»«
Je suis là, Lisa. Quand on est à Springfield, on aime bien venir faire un tour dans le jardin d'Apu. »
On l'a connu en Inde il y a des années, pendant notre période de Maharashi. À l'époque, on m'avait surnommé le cinquième Beatle. Et à juste titre, Apu. Tu sais quoi, Lisa? Paul et Linda sont végétariens eux aussi. En fait, Linda a créé sa propre marque de plats végétariens.
On n'était pas content des plats végétariens qu'il y avait sur le marché. Si tu savais combien de fois on a trouvé un gros morceau de porc dedans.
Linda et moi, on se bat pour défendre les droits des animaux. La preuve, quand on passe Yellow Submarine à l'envers, on entend une super recette de soupe aux lentilles.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard. Many more of them live next door.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Claude Fischler, éminent spécialiste des pratiques alimentaires, lait, végétarisme. Je dis lait sur votre conseil, Claude Fischler, parce que regardez Linda McCartney, végétarienne seulement, croit-on? Non, végétalienne, aucun produit issu des animaux dans sa nourriture. Et ensuite, végane, c'est-à-dire qu'aucune consommation n'est permise pour l'alimentation, mais aussi pour l'habillement, par exemple, de produits issus des animaux, voire testés sur les animaux. C'est un processus de distinction et de différenciation sans fin, d'ailleurs, le végétarisme.
Je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est qu'en effet, le pluriel est absolument nécessaire parce qu'il y a à la fois des obédiences, des doctrines et puis des choix individuels. Et ce qui est tout à fait caractéristique de la période contemporaine, c'est précisément cette individualisation des choix alimentaires, c'est-à-dire la multiplication à l'infini, et j'allais dire ad nauseam, des parties alimentaires personnelles, individuelles. C'est-à-dire que on sait très bien, déjà d'ailleurs dans l'Antiquité, on nous rapporte qu'il y avait des querelles entre les membres de la secte pythagoricienne, parce qu'il y avait ceux qui considéraient qu'on pouvait manger tel animal mais pas tel autre, etc. Et on voit ça encore aujourd'hui. On voit bien qu'il faut se déterminer sur la question de savoir, en tout cas c'est ce qu'on rencontre, hein, si le poulet ou la volaille c'est de la viande, si la viande c'est nécessairement de la viande rouge, s'il faut se déterminer par rapport aux espèces animales ou pas, etc. Donc il y a une dimension maintenant ad libitum de la construction du système alimentaire de chacun, et c'est ça qu'on voit dans le recueil de textes, les alimentations particulières que nous avons publiées. On voit bien
Chez Odile Jacob.
Merci. On voit bien qu'il y a à la limite, dans une large mesure, autant de végétarisme que de végétariens. Et ce qui est caractéristique de l'époque, c'est précisément ça. C'est-à-dire que le manger devient le domaine de choix individuel et d'affirmation individuelle, en ce sens de distinction individuelle ou de construction individuelle de l'identité.
Oui, mais alors, qu'en est-il de la commensalité?
Alors, il y a des bleus, il y a des saignantes, il y a tout ce qu'il faut. Chacun sert. Hein.
Bah, moi, je mange pas de viande.
Ah bon?
Ouais. Tu n'aimes pas la viande?
Non, j'en prends pas.
Mais c'est pas grave. Ouais. Tu veux qu'on te fasse autre chose?
Non. Moi, ça va. Le taboulé, ça va. Ça va.
Non, mais jamais tu manges de viande?
Non, jamais.
Et au niveau de l'organisme, pas de problème? Tout va bien?
Ça doit poser des problèmes, non, quand tu es chez des gens.
Bah, comme là, mais...
Tous les gens normaux aiment la viande. Moi, si j'allais à un barbecue où il n'y a pas de viande, je dirais « Hé, machin, où est la bidoche? Je vais leur enfiche plein la vue, tu piges. On se fait pas de pote à coups de salade.
On se fait pas de pote à coups de salade. » Bon, là, c'est un partage de la table un peu inattendu entre les Simpsons de Rochef. Et vous avez reconnu l'extrait avant?
Oui, Romer. Non, je ne connaissais pas cet extrait. Dans le rayon vert, je ne connaissais pas. Je ne connais pas ce film. Mais je dois dire qu'on aurait pu commencer par là, parce que cette situation, c'est une situation vraiment prototypique et dans laquelle on peut montrer les différences entre les cultures et les groupes sociaux. Voilà. Une végétarienne française m'a raconté une fois exactement avoir vécu cette situation, mais simplement dans une situation un petit peu formelle, solennelle, où elle se posait la question, que faire? Déclarer mon végétarisme? On sert du sanglier ou du marcassin. Tout le monde est très content, et elle se dit, que faire? Est-ce que je déclare mon végétarisme? Ça va faire, bon voilà, on va me proposer d'autres choses, ça va être très gênant. Est-ce que j'essaye de couper en petits morceaux la stratégie de l'anorexique, c'est-à-dire je coupe en petits morceaux, je mettrai longtemps à tourner les choses dans mon assiette, et puis je finis par masquer les restes sous mon couteau et ma fourchette? Non, elle décide quoi? Elle décide de manger la viande. Et ça, c'est une posture qu'on rencontre en France, qu'on ne rencontrera pas dans le monde anglo-saxon. Parce que dans le monde français, avec un repas communiel, vous déclarez végétarien pendant longtemps, et encore un peu aujourd'hui, me semble-t-il, ça consiste à, en somme, s'extraire de cette communion, donc s'excommunier, d'une certaine manière. Donc c'est une chose qui est difficile à assumer, ou qui l'était. Et la marque du temps, c'est précisément cette espèce de renversement des règles de l'hospitalité, si vous voulez, qui sont assez universelles, c'est-à-dire que je mange ce que l'hôte qui me reçoit m'offre à manger pour marquer ma confiance, mon adhésion, etc. Je m'engage, n'est-ce pas? Or, voici qu'au lieu de manger ce qu'on me donne, je déclare que je ne mange pas ce qu'on me donne.
Oui, mais alors, l'invité peut dissimuler pour rester urbain et partager le repas gastronomique tel qu'il est conçu par les Français et couronné par l'UNESCO dans le patrimoine de l'humanité, mais l'hôte peut peut-être aussi s'adapter. Je veux dire qu'il peut trouver des formules de substitution. La saucisse va être remplacée par le médaillon de tofu.
Ça, c'est la logique contractuelle dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si un hôte, un invité américain ou britannique, américain surtout, vous téléphone deux jours avant une invitation à dîner en vous disant qu'il est végétarien et que sa femme ne mange pas de gluten, la réaction que j'ai observée, c'est une réaction d'agacement, pour dire pour le moins. Et on va voir comment ça va évoluer. Mais dans un monde régi par la commensalité contractuelle, qui n'est pas le nôtre, ça paraît tout à fait normal, et on a des chiffres là-dessus, 95-97% des Britanniques trouvent ça parfaitement normal. Quand on est en France, on descend dans les 75%, etc. Alors, et ça bouge probablement.
Oui, mais en même temps, ce que vous décrivez dans vos enquêtes, c'est pas une montée aux extrêmes. Vous avez parlé de secte pythagoricienne, mais c'était au sens antiquiste. Il n'y a pas de secte végane, on ne vous a pas entendu prononcer ce mot.
Non,
en tout cas, il y a un désir d'accommodement raisonnable qui domine quand même, ce qui fait que même s'il y a des végétariens qui peuvent devenir extrémistes, végétaliens ou véganistes, il y a davantage de flexitariens, dites-vous, de gens qui accommodent.
Le terme flexitarien a été inventé, à ma connaissance, par un chroniqueur culinaire et alimentaire du New York Times qui s'appelle Mark Bittman, et pour caractériser le régime qu'il avait adopté. C'est-à-dire que la posture contemporaine par rapport à la viande la plus courante chez les gens qui ne se sont pas déclarés une fois pour toutes végétariens, c'est d'adopter le point de vue qui fait de la viande un problème, qui ferait de la viande un problème pour l'environnement. Vous savez que à l'horizon 2050, nous dit-on, nous serons 9 milliards et il sera peu rentable, selon certains, d'utiliser des calories végétales pour nourrir des animaux, il y a de la déperdition, etc. Et la logique flexitarienne, c'est de dire, pour des raisons de santé, pour des raisons morales, de rapport à l'animal, etc., notre rapport à l'animal, comme vous l'avez souligné à travers la question du statut, a beaucoup évolué, autant limiter, restreindre à certaines occasions sa consommation de viande, enfin disons avoir une consommation éclairée, et les flexitariens disent simplement, enfin les gens qui se réclament de cette entre guillemets doctrine, qui n'en est pas une, cherche simplement des accommodements raisonnables, vous avez cité le terme québécois, mais il s'agit plus d'une posture d'hygiène ou peut-être de gourmandise.
Alors comment faire, question cruciale pour beaucoup de nos auditeurs, parents ou grands-parents, avec les enfants? Alors il y a la solution toujours très rusée de Michel Simon dans le film autobiographique de Claude Berry.
Dis-moi mon petit, tu veux me faire plaisir?
Oui.
Alors, ne mange plus mes lapins. D'accord?
Oui.
Allez, donne-moi ton assiette, mon petit lapin. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Une cuisse?
Non.
La tête?
Non, je veux rien.
Comment tu veux rien? Tu n'as pas faim?
Si, j'ai faim.
Alors, donne ton assiette.
Non.
Comment non?
N'insiste pas, il n'en veut pas de ton lapin.
Comment il n'en veut pas? Un bon lapin comme ça, la moutarde? Allez, donne-moi ton assiette.
Avec ou sans moutarde, il n'en veut plus de ton lapin. Voilà, c'est fini. C'est pas un cannibale, lui. Maintenant qu'il les connaît, les lapins, il les aime. Il veut pas les manger. Quoi, c'est vrai qu'il m'a dit.
Oui.
Moi, je mange des légumes. Que des légumes. J'ai pas un toxin à la place du cœur, mais je respecte la vie.
Heureusement qu'on a nos lapins. Qu'est-ce qu'on mangerait?
Des légumes.
Il est sous influence et pourtant c'est la guerre, hein, le gamin.
Le petit lapin ne mange pas de lapin.
Ouais. Et quand les enfants ne sont pas sous influence, racontez-nous d'un mot, Claude Fischler, une enquête extraordinaire que vous faites. Vous mettez des caméras à 360 degrés au-dessus des tables des cantines en Île-de-France.
Sur les tables, c'est Valérie Hatt qui fait ça dans notre équipe. Et elle regarde ce qui se passe entre les enfants. Elle ne regarde pas tellement ce qu'ils mangent, mais elle regarde ce qu'ils disent, ce qu'ils font, etc. Et ce qu'elle note, c'est chez des enfants du primaire, c'est quelque chose qui relève un peu du flexitarisme dont vous parliez tout à l'heure, bien que le terme ne soit pas employé. Il y a un petit garçon, par exemple, qui dit « à la maison, je mange halal, au restaurant, je mange halal, et quand je suis à la cantine, je ne mange pas halal ». Voilà le genre de scène auquel on peut assister dans, ces morceaux choisis de situations conviviales ou commensales.
Donc laisser à l'enfant un certain nombre de libertés. C'est une leçon flexible que vous nous avez donnée aujourd'hui, Claude Fischler, vos livres chez Odile Jacob. Il est question du sujet que nous abordions brièvement, Mathieu Vidard, dans votre émission.
La science de la démographie avec la bombe démographique en question.
Ah ben ça, attention au mot bombe à ce sujet. 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, disait Claude Fischler. Merci.